journal des auditeurs avec Nadir Djellad sur Africa numéro 1.
Africa.
Bienvenue dans le journal des auditeurs. La parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, mardi 19 mars 2019, dans le JDA. Quel rôle aujourd'hui pour l'opposition politique algérienne alors que la mobilisation de la société civile contre le pouvoir se poursuit? Des milliers de personnes manifestent actuellement dans les rues d'Alger. Dans une lettre à la Nation publiée hier soir, le président Abdelaziz Bouteflika a confirmé qu'il resterait en poste jusqu'à la fin de la transition. Pour une grande partie de la société civile, la promesse du président de soumettre une nouvelle constitution à un référendum suite aux travaux de la conférence nationale n'est pas suffisante. Mais de leur côté, qu'en pensent les partis de l'opposition? Nous en parlerons avec Badis Kenissa, qui est porte-parole en France de Talal El Ouriet, parti politique de l'ex-premier ministre Ali Benflis. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00. Le 01 55 07 58 00. Mais avant d'évoquer notre sujet du jour, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour Africa numéro 1. La société civile en Côte d'Ivoire n'existe que de nom. En réalité, ils sont tous politisés. Votre invité, Madame Pucheri, est SPI de la tête jusqu'aux pieds. Elle est présentement à Paris. Mais j'ai vu des photos où elle a reçu des militants proches du Front populaire ivoirien. Mais ceux de l'opposition et ceux du pouvoir ont été ignorés par cette dame. Donc il ne faudrait pas qu'elle vienne nous faire croire que la lune est un gâteau. Madame Pucheri, vous êtes SPI. Soyez sincère avec vous-même. Moi, j'ai dit au pouvoir de faire très attention. La société civile en Côte d'Ivoire n'existe pas. Et il y a un exemple. Les enseignants qui grévissent actuellement, ces syndicalistes, mais c'est tous des militants de l'opposition. Voilà, ils ne mènent pas un combat pour l'école, mais ils mènent un combat politique. C'est ce qui est la vérité. Idriss, bonne journée.
Bonjour, chers compatriotes congolais. La situation qui prévaut en République démocratique du Congo est causée par Nanga. Si le membre de l'UDPS sont en train de brûler les appartements de leurs sénateurs, soi-disant de leurs sénateurs, parce qu'ils n'ont pas voté, ils n'ont pas respecté l'ordre de vote. Moi, je demande à M. Félix Tshisekedi de faire interpeller Nanga. Nanga qui a tout coché en République démocratique du Congo. Nanga doit être interpellé par la justice. Je demande l'arrestation de M. Nanga. C'est lui qui est à la base de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il a boycotté les élections présidentielles. Il regarde maintenant au Sénat. C'est toujours Nanga. Il faut que Nanga, M. Nanga, soit interpellé. Merci, M. Félix, le président Félix Tshilombo. Interpellez Nanga. Il doit être arrêté. Merci.
Bonjour, Africa numéro 1. Je demande toutes mes condoléances à l'armée malienne et à leurs familles. Les 16 militaires qui sont tombés au centre du Mali. J'ai dit, le peuple malien, le temps que le peuple malien se réveille. Les sécurités d'État maliens, le général Moussa Diawara, qui a fêté son anniversaire la semaine passée, il a invité Fallou Poupa, les centaires, les miliciens congolais. Il a donné des centaines de millions. Ils ont fait des voitures cadeaux. J'ai dit, général Moussa Diawara, le chef de sécurité d'État, il doit démissionner. La ministre de la Défense, il doit démissionner. Il doit partir. Les premiers ministres doivent partir. Mais ces gens-là, ils ne sont pas là pour les peuples maliens, ils sont là pour isoler leur famille. Un pays qui est en guerre, un général qui va fêter son anniversaire, qui invite Fallou Poupa, et qui est en train de distribuer l'argent partout, partout, gauche à droite. L'armée en train de se combattre. Ces pauvres jeunes qui ont 20 ans, qui ont 22 ans, qui ne sait même pas bien manipuler les armes. Les généraux, ils sont à Bamako, en train de rouler dans les belles voitures, dans les 4x4, maisons climatisées. Aller donner les enfants des autres à la mort. J'ai dit, le peuple malien, il est temps que vous allez vous lever, vraiment dégager ces gens-là. Merci, que Dieu bénisse l'Afrique.
Bonjour les amis de JDA, le peuple africain, et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Nous avons dit au nouveau président de la République démocratique du Congo comme le président Macron a souligné à Nairobi, il faut que le monsieur le président actuel qu'il soit autonome vis-à-vis de l'ancien dictateur de la République démocratique du Congo. S'il n'est pas autonome ou bien indépendant, il ne va pas gouverner parce que l'ombre de M. Kabila est toujours là. Et nous, peuple congolais, nous avons compris que Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Mais nous disons des grèves de force. Même si ce qu'il ne l'arrête pas, mais nous, les Congolais, nous, les nouveaux politiciens, nous, la classe politique nouvelle, nous allons l'arrêter. Et vis-à-vis, nous avons vu aux élections sénatoriales, il n'y a eu ni un sénateur du président de la République ou bien de l'IDP. L'heure est là, laissez la place à la nouvelle classe politique.
Je viens ici exprimer ma satisfaction du bon début à la présidence de M. Tshisekedi. Jusque-là, comme l'a dit M. Syndicat de Colo, le président nous étonne positivement. Nous assistons vraiment véritablement à un rétablissement d'un état des droits et le PDG de l'ONATRA ont été révoqués et transférés à la justice pour malversation. Nous avions assisté à la libération de 700 prisonniers politiques et d'opinion. C'est ça des mesures qu'on attend des chefs de l'État. Donc, dans un mois, nous avons vu que la RDC est de nouveau dirigée par un digne fils du pays. Nous disons félicitations à notre président de la République et bon vent. Vive la RDC, vive la RDC prospère. Merci et au revoir.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. En Algérie, des centaines de personnes manifestent actuellement dans les rues de la capitale Alger contre le pouvoir en place. Et dans une lettre publiée hier soir, le président Bouteflika a confirmé qu'il resterait en poste jusqu'à la fin de la transition. Il s'engage, je cite, à mener une transition harmonieuse d'ici la fin de son parcours présidentielle. Pour une grande partie de la société civile, la promesse du président de soumettre une nouvelle constitution à un référendum suite aux travaux de la conférence nationale n'est pas suffisante. Une vingtaine d'organisations de la société civile a publié une feuille de route pour sortir de la crise. 5 propositions parmi lesquelles la mise en place d'un haut comité de transition mais aussi l'élection d'une assemblée constituante pour élaborer cette nouvelle constitution. Par ailleurs, plusieurs syndicats refusent d'apporter leur soutien au nouveau Premier ministre Nourdine Bédou, chargé de former un gouvernement d'union nationale. Nous avons en ligne Badis Kenissa. Bonjour.
Oui, allô.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'intervenir dans le journal des auditeurs. Alors vous êtes homme politique, vous êtes porte-parole en France de Talha El Ouriet, qui est le parti d'Ali Benflis. Alors rappelons qu'Ali Benflis a été Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika et aujourd'hui un opposant. Alors tout d'abord, comment réagissez-vous à la lettre du président Bouteflika publiée hier soir?
Alors, juste si vous permettez, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation, effectivement, je salue vos auditeurs et auditrices. Une petite précision, dans la chronologie, si vous voulez, il a été également ministre de la Justice, oui. Faut le rappeler pour comprendre que c'est un homme de droit, effectivement, et ça, la sémantique de droit lui est très chère. Sa démarche politique. Donc voilà. Aujourd'hui, pour répondre à votre question vis-à-vis de la lettre et on va dire les multiples rebondissements que nous connaissons actuellement, je pense que le régime ne fait pas dérogation à sa posture qu'il a tenue depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est-à-dire occulter les revendications du peuple, le marginaliser, voire même le mépriser, et ce qui explique aujourd'hui pourquoi nous sommes je dirais dans des espèces de négociations de marché plus qu'autre chose, alors que le peuple effectivement a donné une réponse sans équivoque à travers les différents actes, notamment les vendredis, que ce soit localement en Algérie, mais que ce soit le dimanche à travers l'étranger,
oui.
En masse, pour expliquer que cette proposition depuis le début est suivie une fin de non-recevoir de la part du peuple et que le peuple demande beaucoup plus que ça, c'est-à-dire ce n'est plus une histoire de recyclage ou de colmater les brèches, mais plutôt d'une refonte, d'une structure et puis une création d'un nouveau modèle politique. Et pour cela, il y a un préalable, effectivement, qui était très clair aussi, celui qui consiste à, évidemment, le départ du président actuel.
Vous demandez son départ, par exemple, le 28 avril, qui est la fin, on va dire, sur le plan constitutionnel de son mandat.
Après, je pense qu'il faut contextualiser les choses. On demande un départ dans un contexte bien précis. C'est-à-dire que nous considérons qu'aujourd'hui, et le peuple algérien en a fait preuve et l'a démontré clairement, que cette feuille de route, cette alternance proposée, supposée, est une alternance, tout simplement, pour la résumer, qui est gérée par ce même pouvoir. C'est un pouvoir aujourd'hui qui a démontré qu'il a échoué les 20 années dernières. C'est un pouvoir qui a, comme je disais en introduction, occulté et marginalisé le peuple et qui aujourd'hui, comme par magie, souhaiterait effectivement travailler main dans la main avec ce même peuple. Et d'ailleurs, je tiens à le signaler, à le rappeler, les différentes lettres qui sont exposées publiquement, elles dénotent aussi une chose que nous devrions justement nous attarder là-dessus, c'est-à-dire un aveu d'échec, parce que quand vous dites que dorénavant nous allons créer un régime politique inclusif et ouvert, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, les 20 dernières années, il était exclusif, comme l'opposition l'avait démontré, l'avait souligné. D'accord. Quand vous dites que le peuple doit retrouver sa souveraineté, être maître de son destin, c'est-à-dire que vous êtes aussi en train d'avouer qu'effectivement le peuple a été occulté dans la décision politique depuis les 20 dernières années.
Bien. Restez avec nous, hein, Badis Kenissin. Je rappelle que vous êtes porte-parole en France du parti Tal El Ouriet, le parti d'Ali Benflis, un parti d'opposition à l'actuel au pouvoir. Nous avons en ligne des auditeurs. Tout d'abord, Magassa. Magassa, bonjour. Allô, Magassa. Allô.
Allô.
Oui, Magassa, bonjour, on vous écoute.
Bonjour.
Oui, on vous écoute.
Hein?
On vous écoute, Magassa. Vous souhaitez intervenir sur le thème...
Je voulais dire... Ce conseiller de Bouteflika nous écoute. Il faut qu'il parle, pas qu'il met le pays au champ à feu. Après, les militaires vont faire un coup d'état pour l'enlever. C'est pas bon. C'est les généraux qui sont derrière lui. Il veut pas qu'il parle. Sinon, lui, c'est un mort vivant. Il ne dirige pas le pays, lui.
D'accord. Ok, on a compris. Merci.
Les chefs d'État africains, ils ne parlent pas, ils sont là pour le moment. Après, quand tout est cassé, ils vont dire à l'Union africaine, on va intervenir. Il faut intervenir avant que tout est cassé.
Merci Magassa pour votre intervention. Nous avons en ligne Lassana. Lassana, bonjour.
Bonjour Nadine.
Oui, bonjour, on vous écoute.
Ça va. Nadine, c'est ce que moi je veux dire à l'Algérien, bon... Comment je suis voisin de l'Algérie, je suis Mali, Algérie, ça me concerne un peu.
Oui.
Mais ce que moi je dis, le peuple algérien, ils sont levés retard pour moi, quoi.
Oui.
Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas Bouteflika, c'est pas une dictature, mais pour lever tout de suite, pour avoir les pouvoirs comme ça, c'est pas facile, hein. Ce que j'ai dit, tous les Algériens, quoi, ils vont rester prudents, quoi. Franchement, c'est pas facile, quoi.
D'accord.
Voilà, bon. En plus, pour vous dire que Bouteflika, tout de suite, il va laisser pouvoir comme ça. Moi, je vois pas.
Ok.
C'est pas marcher, on va aller marcher, on va faire comme ça. Comme bon Algériens, ils sont. C'est pas, ils vont faire attention, quoi, c'est ce que j'ai dit, quoi.
D'accord. Merci, Lassana, pour votre intervention. Alors, nous retrouvons Badis Kenissa. Alors, le président, dans sa lettre, a assuré que la conférence nationale chargée de changer, je cite, le régime de gouvernance de l'Algérie, de renouveler ses systèmes politiques, économiques et sociaux, se tiendra dans un très proche avenir. Pour vous, il n'y a pas une réelle volonté de changer le système de gouvernance dans ce pays ?
Pas du tout, parce que c'est aussi l'avis du peuple, d'ailleurs, qui d'ailleurs a déjà souhaité renouveler un énième acte le vendredi prochain. Mais pour la bonne et simple raison, si vous voulez, que les consultations aujourd'hui, ce sont des consultations unilatérales, c'est-à-dire qui sont gérées par les mêmes, qui ont échoué par le passé, mais surtout qui font fi aux exigences du peuple. Et moi, ce que je qualifie aujourd'hui, leur manœuvre dilatoire, bien évidemment, tout le monde l'aurait compris, que ce sont une pièce théâtrale, mais sans le peuple, sans le public. Voilà, tout simplement. Donc oui, effectivement, si nous voulons mettre un socle, une base solide pour justement créer une alternance effective et pérenne, mais surtout efficace et qui émane du peuple et de la volonté du peuple, nous avons besoin d'abord de créer certains préalables. Ces préalables ont été clairement affichés, soulignés par ce même peuple qui, effectivement, veut se réapproprier sa pleine citoyenneté, réapproprier sa pleine souveraineté pour pouvoir décider de son avenir, décider de ses gouvernants et décider quel sera le schéma politique propice et adéquat pour pouvoir justement créer, impulser cette alternance et donc, in fine, le développement du pays, tout simplement.
Alors, dans ce contexte, on voit que les manifestations se poursuivent, hein, parce que je le disais en début d'émission, il y a actuellement des étudiants qui manifestent dans les rues d'Alger. Que peut faire l'opposition, notamment votre parti? Car on le voit, le mouvement de protestation est un mouvement citoyen qui refuse la récupération politique.
C'est normal, tout à fait, je peux comprendre effectivement, étant moi-même un citoyen et membre du peuple également, et avoir vécu les mêmes choses et les mêmes souffrances que le peuple, donc je pense qu'on est dans une approche, on va dire, similaire. Si ce n'est que, comme je disais pour l'opposition serait, ça serait une erreur de jugement, oui, de dire que l'opposition effectivement aujourd'hui a été déconnectée ou déphasée. Du moins, pour l'opposition...
Mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas une méfiance de la part aujourd'hui des citoyens envers toute la classe politique algérienne?
Ça peut se comprendre, effectivement, et je comprends parfaitement, parce que, tout simplement, ce régime, pendant les 20 dernières années, a fait de telle sorte qu'il y ait cette rupture, qu'il y ait cette absence de confiance, cette destruction de rapport de confiance entre la classe politique, dans sa globalité, l'opposition incluse, avec la classe populaire et le peuple, de manière à pouvoir créer un statu quo et de manière aussi à avoir les mains libres pour pouvoir gérer le pays comme bon leur semble. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que ce serait une grossière erreur de dire que l'opposition, même si son adversité et sa diversité se cherchaient encore, parce qu'effectivement, faut-il rappeler aussi un détail et non des moindres, que faire de l'opposition, l'exercice d'opposition dans un régime démagogue, absolutiste, qui ne partage pas le pouvoir, ça relève du miracle. Donc, pour preuve, nous, notre parti, par la Fouriette, avons gardé liberté, nous avions subi beaucoup, beaucoup de points bloquants et de blocages.
Ce que vous dites, c'est que le régime actuel n'a pas permis l'éclosion d'une opposition qui puisse débattre et proposer des alternatives.
Bien au contraire, il l'a tué dans l'œuf. Donc, il n'a pas permis, effectivement, d'avoir, comme on connaît dans les pays démocratiques, un contre-pouvoir qui, effectivement, permet de l'équilibre des pouvoirs. Nous n'avions pas eu, par le passé, ce type d'approche, pour la bonne et simple raison que c'était un régime césariste et que le pouvoir tournait autour du clan du président et ses sbires. Donc, ce qui explique aujourd'hui pourquoi, effectivement, le peuple, c'est quelque part déconnecté d'une manière générale de la classe politique. C'est pour ça qu'il parle d'un renouveau du modèle politique. Donc ça passe aussi malheureusement par l'opposition. Néanmoins, l'opposition, faut-il le rappeler, a été dans un processus effectivement certes affaibli, certes timoré, parce que pour les mécanismes que j'ai évoqués précédemment, surtout qui a essayé tant bien que mal, et je pense qu'à travers notre parti, à travers notre mouvement aussi qui sont créés au fil de l'eau, ont créé une espèce de conscientisation de on va dire de la sémantique populaire, de l'approche aujourd'hui du peuple qui a éclos et qui a créé une espèce de mouvement instantané, parce qu'effectivement quand on m'a posé la question sur cette instantanéité, moi j'ai expliqué que pas si tant que ça comme instantanéité, parce qu'il y a eu quand même 20 ans d'introduction, 20 ans de souffrance qui ont fait qu'aujourd'hui le peuple algérien a voulu se réapproprier son rôle qu'il doit jouer dans un état dit démocratique.
Restez avec nous, Badis Kenissa, nous allons prendre des auditeurs, vous pouvez appeler au 01 55 07 58 00, nous avons en ligne Amadou, bonjour.
Bonjour à vous, merci Africa numéro 1 de vos informations. Moi, mon point de vue sur l'état de Bouteflika de l'Algérie, on ne voit pas en Afrique des guerres civiles pour tuer les gens. Bouteflika, c'est son homme de paix. Moi, je crois qu'il était estimé parce que ça regarde aux Algériens, la politique intérieure. Quand on parle de la démocratie, ou bien le droit, le devoir envers mon pays, c'est-à-dire que t'as pas le droit, c'est la liberté. La liberté, l'état du droit, c'est pas quelque chose qu'on conquit. C'est un processus de continuité de devoir. Du moment que le peuple ne veut plus qu'il gouverne, il démissionne comme Senghor a démissionné. Il était ministre depuis Chadli, Bouteflika, ministre des Affaires étrangères. Bon, il a travaillé pour le pays. Moi, je pensais qu'il était aimé par le peuple algérien. Du moment que le pouvoir appartient au peuple, mais qu'il laisse le pouvoir, il faut que l'Union africaine intervienne. On ne voit pas des morts. On ne voit pas des âmes qui vont perdre pour nos frères.
Vous souhaitez une intervention de l'Union africaine, c'est-à-dire, soyez plus précis, qu'est-ce que vous souhaitez que l'Union africaine fasse? C'est-à-dire, interpelle les autorités algériennes, le président de la République?
Que ça soit l'Union Afrique ou bien l'ONU, tout doit intervenir parce que ça va finir une guerre civile. Parce que le peuple, le pouvoir appartient au peuple. C'est comme par exemple, lui, il est intervenu les années noires de l'Algérie, oui. Il a calmé les islamistes. Effectivement, la religion, ça vient de Dieu, ça n'appartient pas à la propriétaire du patrimoine national.
Ouais,
donc
d'accord.
Le patrimoine national appartient à tous les Algériens. Donc qu'il lâche le pouvoir, ce qui ne lui appartient pas à sa famille, qu'il le lâche, il appartient au peuple algérien.
Merci.
Point de vue, une bonne continuation à vous.
Merci Amadou pour votre intervention. 01 55 07 58 00. Nous avons en ligne Ousmane. Ousmane, bonjour.
Bonjour Nadir.
Bonjour Ousmane.
Bonjour à votre invité.
Bonjour, je crois que vous avez une question Ousmane.
Deux questions quoi.
Oui, on vous écoute.
Bon, j'ai beaucoup de copains algériens et tout ça, je m'entends très bien avec eux. Bon, la question que je voulais poser, est-ce que l'opposition, l'armée, ne sont-ils pas régionalistes, ethnicistes et tout ça, parce que j'ai appris que l'armée algérienne, bon, il y a beaucoup qui sont des Chaouis, des Sissis.
Oui.
Les Chaouis, je crois que c'est un embranchement des Kabyles, je crois.
Mmh, oui.
D'après ce qu'on m'expliquait. Et puis, l'opposition en Kabylie, en général, ils sont régionalistes, quoi.
Mmh.
Je pense à Aït Ahmed,
oui.
À Rachid Saïd Saïdi,
oui.
RDC.
RCD.
Louisa Hanoun, Parti des Travailleurs, puis il y a un autre là que j'ai oublié son nom. Bref,
d'accord.
Est-ce qu'ils sont ethniciques ou l'armée légaliste? C'est ça quoi, la question que je voulais poser quoi.
Merci Ousmane pour vos questions. Alors Badis Kenissa, vous avez entendu la question d'Ousmane. Que pouvez-vous répondre?
Alors tout d'abord, je tiens à remercier Ousmane pour cette question pertinente. Alors sur l'aspect l'armée, j'ai pu comprendre et la régionalisation.
Oui, c'est bien ça. Oui. Voilà. C'est-à-dire que les militaires de haut rang notamment sont tous issus d'une même région d'Algérie.
Enfin. Alors, ce qu'il faut rappeler effectivement, si toutefois il y a régionalisation à titre global, c'est une régionalisation qui a été créée justement par résultant de ce clanisme et ce régime qui a justement opté pour ce type de gouvernance. Néanmoins. En ce qui concerne l'armée, moi je tiens à rappeler qu'effectivement l'armée est je dirais la colonne vertébrale de l'État-nation, de tous les États d'ailleurs à juste titre dans le monde. Et cette colonne vertébrale effectivement est éternelle, contrairement aux hommes qui eux sont éphémères. Donc l'armée est le socle, je dirais, de la stabilité d'un pays. Et elle l'a démontré, je pense, aujourd'hui à travers ses prérogatives constitutionnelles. Et j'irai plus loin, qu'il l'a démontré factuellement récemment à travers quelques déclarations du chef de l'état-major, vice-ministre de la Défense,
oui.
M. Salah,
oui.
Qui effectivement s'est retranché aux côtés du peuple, car effectivement, c'est une armée populaire.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites. On rappelle qu'Ahmed Gaïd Salah a appelé à trouver des solutions dans les plus brefs délais pour sortir de la crise. Alors peut-il y avoir un rapprochement de l'opposition, notamment votre leader Ali Benflis, avec cette partie de l'armée mécontente de la gestion de la crise par le président Bouteflika?
L'armée dans sa globalité, encore une fois, a une prérogative qui est la stabilité du pays.
Oui.
Ça, c'est une chose fondamentale. Donc pour cela, elle a besoin effectivement de mettre tous les leviers en sa possession dans le cadre constitutionnel pour pouvoir maintenir cette sécurité interne et externe, bien évidemment, car elle protège les frontières algériennes. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport à Ali Benflis, effectivement, son rapprochement, écoutez, Ali Benflis n'a pas attendu aujourd'hui pour pouvoir justement se rapprocher de qui que ce soit. Il a été dans une approche d'inclusivité en matière d'initiative. Faut-il rappeler que nous, depuis la création, la fondation de notre parti par Al-Hurriyat, nous avons à l'époque déjà évoqué cette feuille de route qui aujourd'hui se discute et se rediscute. Donc nous avions discuté justement d'une alternance graduelle, apaisée, sécurisée. Donc c'est juste revenir un peu à notre feuille de route.
Mais pourquoi n'a-t-il pas réussi à prendre la tête de cette opposition, alors une opposition unie?
Alors, oui, mais là aussi, d'autres questions se posent, effectivement. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au chapitre de l'opposition, l'opposition, dans sa diversité, mais surtout adversité, a eu quelques infiltrations, quelques dénaturations de sa feuille de route, notamment dans son exercice purement d'opposition. Faut-il rappeler qu'il y a eu quelques initiatives comme l'ITSO, comme la CNLTD, par exemple.
C'est-à-dire, expliquer.
Je me porte pas porte-parole de l'opposition dans sa globalité, mais je vous parle de notre parti en tout cas, qui s'est inscrit dans toutes les initiatives qui allaient dans le sens de l'intérêt de l'État et du peuple. Néanmoins, bien évidemment, comme vous savez très bien, il est très difficile de faire converger plusieurs feuilles de route qui ne s'accordent pas sur les fondamentaux, sur les socles, qui est l'intérêt collectif, l'intérêt, l'enjeu qui devrait dépasser tous les intérêts individuels. Donc ce qui explique pourquoi aujourd'hui, effectivement, même si l'opposition, d'ailleurs juste titre, dans l'état actuel des choses, s'est rassemblée, hein, on est au quatrième ou cinquième chapitre justement des concertations de l'opposition qui s'est tenu récemment chez Jabala et précédemment au siège du parti Talal Hayat, notre parti Alger.
Oui.
Donc, c'est une bonne chose, c'est un point positif qu'on consiste à justement à pousser à la réflexion, à mettre en place un contexte favorable de l'opposition pour qu'elle puisse ne serait-ce que déjà se réunir, discuter et éventuellement converger sur une feuille de route et créer cette impulsion, bien évidemment, aux côtés du peuple, car le peuple a donné la tonalité, le peuple a donné la direction, le peuple a donné l'orientation. Donc maintenant, c'est ce que je dis, il y a un effet de complémentarité parce que ces revendications populaires doivent être traduites en revendications politiques, c'est-à-dire une feuille de route politique. Et il me semble aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être discuté, notamment par cette feuille de route qui a été validée lors de la dernière concertation de l'opposition et qui répond quasiment à toutes les revendications populaires du peuple.
Alors, vous parlez de feuille de route, mais est-ce que vous allez participer, par exemple, à la conférence nationale si on appelle votre parti, si on appelle Ali Benfis à y participer?
Écoutez, notre parti a déjà communiqué sur cette question, effectivement. Nous la rejetons sur le fond et sur la forme, pour la bonne et simple raison, encore une fois, que c'est une consultation unilatérale qui n'a, on va dire, ni queue ni tête, qui n'a aucune démarche, disons, favorable à l'égard du peuple, à l'égard de ses revendications. Donc pour nous, elle est caduque, pour nous, elle est... c'est un non-événement, effectivement, un énième non-événement. Mais par contre, en revanche, que nous considérons cette énième lettre, cette énième posture comme, encore une fois, un défi, une provocation, un affront envers le peuple. Et comme vous le savez très bien, le temps nous fait défaut. Le temps est précieux aujourd'hui. Nous avons déjà perdu plus de 20 années. Maintenant, nous sommes dans une période un peu charnière, oui. La croisée des chemins de l'Algérie même, je dirais, et dans laquelle, effectivement, encore une fois, ce régime se muse et ce terme, son mutisme aujourd'hui, qui est devenu suicidaire et qui est aux antipodes, effectivement, des revendications. Donc le peuple a été très clair là-dessus.
D'accord.
Depuis le départ, et il veut une refonte, il veut le départ de ce régime, tout simplement.
Restez avec nous, Badis Kenissa. Nous allons prendre des auditeurs. Nous avons en ligne Monsieur Diaby. Monsieur Diaby, bonjour.
Bonjour. J'ai juste deux mots seulement. Algériens, ceux qui ont fait, les peuples algériens, vraiment, je les félicite bien, parce qu'ils ont tous ensemble. Cette fois-ci, les Africains ne craignent de rien, parce que les peuples, ils n'ont pas divisé. Ils ont tous ensemble, ils sont d'accord une chose. Toute l'Afrique est d'accord que vraiment le président est malade, le président ne peut plus rester. C'est pas ça, c'est pas lui qui a maintenu le pouvoir, c'est les généraux qui ont maintenu le pouvoir. Vraiment, les généraux, je pense qu'ils ont compris cette fois-ci, les peuples ne sont pas divisés. Si les peuples ne sont pas divisés, le président finira à laisser le pouvoir, tout simplement.
Merci, monsieur Diaby, pour votre intervention. Nous avons en ligne Jomo, bonjour. Jomo Debeng, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Nabé Deneuve, merci à vous.
Merci, comment allez-vous?
Moi, je vais déjà féliciter l'armée algérienne, parce que depuis que ça a commencé, je ne sais pas, peut-être qu'à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a eu un mort dans cette manifestation. Eh bien, le peuple aussi a agi pacifiquement, hein, ça c'est certain. Ben, moi aussi, je me pose la question, est-ce que l'opposition discutera avec le président Bouteflika ou discutera avec d'autres personnes? Parce que Bouteflika n'est plus en possession ni physique ni morale du pouvoir.
Oui.
Et quand on voit aujourd'hui M. Bouteflika dit, ou soi-disant, il a fait des messages, il a fait ceci, moi je crois que l'interlocuteur vrai en Algérie, c'est qui? Le peuple dispute avec qui? Parce que le peuple ne dispute plus avec Bouteflika, puisque Bouteflika ne peut même plus parler, il ne peut même plus bonjour. Alors pourquoi maintenir quelqu'un qui ne dit pas bonjour? Je comprends qu'il y a des présidents en Afrique qui encore sont atteints d'AVC, comme le président du Gabon par exemple, peut-être encore qui parle, je ne sais pas. Mais moi je crois que pour Bouteflika c'est tellement visible que le régime doit savoir que on ne peut pas se laisser diriger par un président qui n'est pas là, même si, je dis bien, même s'il y a eu dans le passé un bon palmarès. Mais maintenant, le peuple évolue.
D'accord.
L'Algérie sait que l'Algérie ne peut pas évoluer dans la guerre, ils sont déjà conscients.
Ouais,
mais un président qui ne décide de rien, il faudrait quand même qu'on sache lui tirer une croix là-dessus et partir. La deuxième question que je me pose, on devrait publier la liste des candidats retenus. Le président Bouteflika était candidat.
Oui.
Mais vu qu'il n'est plus candidat, alors il n'y a plus d'élection.
Donc, oui, il n'y a plus d'élection.
Monsieur, il n'y a que le président Bouteflika qui est le seul intellectuel de l'Algérie ou son seul parti qui joue. Ou bien qu'est-ce qu'on nous cache?
D'accord.
Mais moi, ce que je voudrais, ce que je demandais à votre invité,
oui,
qui est de l'opposition,
oui,
déjà, il y a eu le viol de la Constitution qui est déjà d'annuler les élections,
oui,
sans l'avis du peuple.
Oui.
Et deux, pourquoi est-ce qu'aller participer à un débat où le président, sur lequel il y a les discussions, n'est pas partie prenante? Parce que Bouteflika ne dit plus rien à personne.
Oui, oui, oui.
Et c'est qui tient les rênes alors? C'est la question que je me pose.
Merci beaucoup pour votre intervention. 01 55 07 58 00. Nous avons en ligne Kimble. Kimble, bonjour. Allô? Allô? Bon, nous avons perdu notre auditeur. Vous pouvez rappeler 01 55 07 58 00 et donner votre avis sur le thème du jour. Alors, Badis Kenissa, vous avez entendu les auditeurs. Alors, tout d'abord, ce que disait un auditeur au tout début concernant l'Union africaine ou l'ONU qui devrait réagir. Quel est votre avis à vous en tant que membre de l'opposition? Est-ce que l'Union africaine devrait intervenir, par exemple, dire quelque chose?
Alors, deux points. L'Union africaine s'est exprimée il y a quelques jours, effectivement, lors d'une tenue d'une réunion,
oui,
dans laquelle, bien évidemment, elle a tenu une déclaration, disons, diplomatique, dans laquelle, bien évidemment, elle donne la priorité à la réponse aux revendications du peuple. Donc, ce qui est tout à fait normal, je dirais, diplomatique. Maintenant, il faut redéfinir ce qu'on appelle par l'intervention de l'ONU.
Oui, une déclaration. Oui, oui.
Par notre pays. Maintenant, si c'est des déclarations effectivement dites diplomatiques, génériques, qui bien évidemment font émerger la revendication du peuple, soit. Néanmoins, si on est dans une dynamique beaucoup plus sibylline, beaucoup plus tendancieuse, et notamment sur ce qu'on a constaté actuellement par les déplacements du vice-premier ministre, Ramtane Lamamra,
oui,
à travers l'étranger, qui me semble actuellement être en Russie après avoir fait l'Italie,
oui,
là, effectivement, nous sommes dans une dimension qui est bien évidemment condamnable et contestable, que ce soit par le peuple, par l'opposition,
oui,
car cela va à l'encontre, effectivement, de notre ADN diplomatique, de gouvernance diplomatique. Vous savez très bien que l'Algérie, par le passé, est une fervente d'une manière indiscutable, si vous voulez, le concept de la non-ingérence,
oui,
dans les pays tiers et les affaires internes des pays. Donc, aujourd'hui, aller faire cette tournée des partenaires, effectivement, pour chercher une espèce de caution,
oui,
internationale, à défaut de ne pas avoir la caution populaire, qui est pour moi fondamentale et le socle de toute construction d'avenir, me semble en inadéquation, même voire en totale incohérence avec notre diplomatie par le passé.
Mmh.
Néanmoins, et je reviens sur cette intervention, comme vous l'avez dit, que nous considérons récemment comme celle de la France, comme une espèce d'ingérence, car,
ouais,
nous considérons que le problème actuel de l'Algérie est un problème algéro-algérien.
Oui.
Donc, partons de ce point, donc nous considérons que ce problème doit être résolu en interne,
d'accord,
entre le peuple et effectivement toutes les forces vives qui composent, que ce soit la classe politique ou la société civile. Maintenant, j'ai noté un commentaire d'un de vos auditeurs, qui je remercie, qui me permet de faire une espèce de petite transition,
oui,
quand il parle de vis-à-vis. Effectivement, je le rejoins totalement aujourd'hui, d'ailleurs, comme pas mal de pays africains, et on a cette comparaison analogique très facile à faire entre les pays, car finalement on a le même modus operandi de gouvernance, notamment. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est très simple, c'est un pouvoir polycéphale. C'est un pouvoir, en fait, effectivement, qui s'est accaparé par ce qu'on a appelé, d'ailleurs, il y a des Bouteflika à maintes reprises par le passé, il y a quelques années, qu'on a traité d'ailleurs de quelqu'un qui n'avait pas forcément fait le bon diagnostic de la scène politique, nous avons qualifié de force extra-constitutionnelle,
d'accord,
et notamment les forces, le pouvoir de l'argent, de la corruption, et ce qui en suit. Donc, ce pouvoir aujourd'hui, quand on parlait de cinquième mandat, pour nous, c'était le premier mandat plutôt de ces forces extra-constitutionnelles, parce que vous le savez très bien qu'il est très aisé de notifier, de constater la vacance du pouvoir.
Badis Kenissa, excusez-moi, il nous reste très peu de temps pour cette émission. Alors juste une dernière question, le mandat actuel du président Bouteflika expire constitutionnellement le 28 avril, et à partir de cette date, vous, en tant que membre de l'opposition, qu'allez-vous faire? Continuer à manifester?
Écoutez, nous, de toute façon, nous avons par le passé été aux côtés du peuple algérien. Donc, bien évidemment, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à en fait la satisfaction pleine et entière des revendications du peuple algérien, nous serons toujours à ses côtés.
D'accord. Très rapidement.
Effectivement, à continuer à contester d'une manière pacifique comme ils ont su le faire, comme le peuple a su le faire. D'ailleurs, il a démontré une maturité politique, une maturité de
très bien. Merci beaucoup, Badis Kenissa. Merci beaucoup. Désolé, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé au journal des auditeurs et merci aux auditeurs pour vos interventions. Et merci à Maxime qui réalisait cette émission. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs sur Africa numéro 1.